Okay.
Hey guys, good morning.
Bonjour à tous. Janice au micro. Bonjour à tous. Bonjour. Bien, merci. Je suis en train de crier et pourtant vous ne m'entendez pas. Il faut que je sois tout près du micro. Veuillez éteindre vos micros aux tables, s'il vous plaît. Bien. Il faut maintenant accélérer un petit peu le pas. Je sais que certains d'entre vous sont un petit peu affectés par le jet lag, mais à partir de maintenant, il faut être très strict par rapport à notre emploi du temps. On a un emploi du temps chargé. Donc, sachez que c'était notre dernière matinée tranquille. Donc, à 6h35, il faut être prêt, debout, pour commencer et être prêt pour la réunion de 7h. Y a-t-il un problème avec les lumières ? C'est bien agréable, c'est lumière tamisée, mais c'est pas vraiment l'heure. Alors, première chose à dire, veuillez éteindre vos ordinateurs, les fermer, en tout cas, les tablettes. iPad, iPod, iPhone, je ne vais pas passer en revue toute la liste. Samsung, Galaxy. Je sais que la tendance est d'avoir à portée de main tous vos gadgets électroniques. Mais sachez qu'ici, à cette réunion, on se concentre totalement sur les unités constitutives, les organisations de soutien, les comités consultatifs qui viennent partager leur expérience avec nous. Ils viennent partager leur expérience et ce qu'ils partagent avec vous. Vous n'allez pas le trouver dans votre ordinateur. Donc, je prends des notes. Et sachez que pour cela, rien de meilleur que l'ancienne méthode, un bout de papier et un stylo. Et sachez qu'il y aura une transcription et une traduction. Donc, si vous avez oublié quelque chose ou que vous n'avez pas compris quelque chose, sachez que vous allez pouvoir retrouver tout cela sur le site web pour référence ultérieure, ainsi que toutes les présentations PowerPoint qui vont vous être présentées, notamment celle d'Olivier. Sans plus attendre, je vais passer maintenant la parole à Olivier Crépin-Leblond. Bien, ça marche. Olivier Crépin-Leblond au micro. Je m'appelle Olivier Crépin-Leblond, je suis français, président du comité consultatif at large. Vous voyez ici ma présentation à l'écran. Je vais vous parler de la communauté at large et de ce que fait le comité consultatif at large. Il s'agit de la communauté des utilisateurs Internet qui contribue au processus ICANN, et le comité consultatif at large est un comité constitué de 50 membres qui constitue la communauté qui regroupe les utilisateurs Internet de par le monde. Première diapo, voyons ce diagramme. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Si. L'avantage d'être ici un lundi matin, c'est que nous sommes les premiers à vous montrer ce diagramme. Et pendant toute la semaine, on va vous le répéter d'une façon ou d'une autre. C'est le modèle multipartite de l'ICANN que vous voyez avec les différentes organisations de soutien, comités consultatifs, etc. Ce que vous voyez ici, c'est un conseil d'administration avec les différentes parties prenantes de l'ICANN qui sont membres du conseil d'administration. Donc, l'organisation de soutien des adresses, l'organisation de soutien des codes pays et le comité consultatif at-large qui représente la communauté at-large. La première chose que l'on fait, parce qu'à l'ICANN, on a tendance à penser que l'ensemble de l'ICANN est trop concentré sur le conseil d'administration. Donc passons à la diapo suivante. L'ICANN dépend de ses organisations de soutien et de son comité consultatif. Voilà d'où vient la plupart des contributions. Et si on a besoin davantage d'informations de la part de communautés, c'est à eux qu'on s'adresse. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des organisations de soutien à l'ICANN, y compris le comité consultatif at large, repose sur un modèle multipartite. Donc, il y a des organisations de soutien qui se penchent sur les adresses IP et ont un modèle qui est composé de registres Internet régionaux. Vous allez en entendre parler un peu plus tard lorsque vous recevrez la visite des gens des organisations de soutien et donc repose sur un modèle multipartite. Excusez-moi, je viens de prendre un café et je suis un petit peu accéléré, on va dire. Je sais que les interprètes qui m'ont suivi hier étaient à bout de souffle à la fin de la journée. Donc, registre, bureau d'enregistrement, titulaire de nom de semis, de nom de domaine, fournisseur de services Internet. Voilà un autre modèle multipartite pour l'ICANN. Opérateur des codes pays, c'est un petit peu différent. Certains fournisseurs de codes pays travaillent de manière multipartite, d'autres non, parce qu'il s'agit de gouvernements ou de sociétés privées. Mais ils peuvent également avoir un modèle multipartite ou un certain type de modèle multipartite. Nous avons des organisations qui sont commerciales, d'autres qui ne sont pas commerciales. Le dénominateur commun au sein de la structure at large, c'est que tous ces éléments ont affaire avec l'utilisateur final. Autre élément intéressant, l'IETF. Certains savent que on parle des normes. Et il travaille sur un modèle multipartite également, avec les comités consultatifs. Les gouvernements figurent ici. De ce côté, ils ne travaillent pas sur un modèle multipartite, mais ils font partie intégrante du modèle multipartite de l'ICANN en soi. Diapo suivante. Concentrons-nous sur le comité consultatif at large. Vous voyez une cartographie de at large. Nous sommes divisés en 5 régions. Pourquoi ? Parce que pour être à même d'obtenir des contributions des utilisateurs finaux du monde entier, il faut être à même de sensibiliser les personnes qui sont dans des régions qui ne sont pas particulièrement bien représentées dans les forats. Donc, vous savez très bien que du point de vue culturel, dans certaines parties du monde, vous pouvez parler avant de penser. Et tout le monde va s'en moquer. Et dans d'autres pays du monde, on pense avant de parler. Donc, dans la même salle, il y aura des gens qui vont penser avant de parler et d'autres qui vont parler avant de penser. Et le premier groupe est le moins nombreux. Donc, il faut s'assurer d'obtenir les contributions des uns et des autres. Donc, nous avons la zone Afrique, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine et Caraïbes et Amérique du Nord. Et chacune de ces régions a à sa tête un comité qui organise la région en une organisation régionale at large. On utilise le sigle RALO. C'est une organisation régionale at large, RALO. Donc, nous avons des structures at large qui, comme je l'ai dit auparavant, peuvent être des associations locales informatiques, des ALS. Nous avons des organisations qui peuvent être des universités ou des associations académiques, d'autres organisations qui donnent des cours d'informatique, des cours de formation technologique ou offre des services informatiques ou des services d'Internet à des comités, à des communautés isolées dans le monde. Donc il y a toute une série de structures qui sont mises en place. C'est pourquoi on utilise le terme de structure. Il s'agit d'une kyrielle d'organisation. Donc chacune a sa propre organisation at large et chacune d'entre elles est à même de sélectionner deux personnes qui va siéger au comité at large qui figure à droite, à l'AC. Donc deux personnes qui sont sélectionnées par la région, une personne provenant de chaque région est sélectionnée par le comité de sélection ou de nomination. Il s'agit d'une organisation, je dirais, indépendante de l'ICANN qui se charge de sélectionner les gens, reçoit les candidatures, les CV des personnes qui sont intéressées par le fait de participer au processus et qui veulent postuler à des postes à responsabilité à l'ICANN, dans les organisations de soutien des codes pays, dans les CCNSO, les GNSO. Et donc, ce comité sélectionne 5 personnes pour siéger à la LAC, donc une personne par région. Et ça, c'est excellent pour nous parce que on voit de nouveaux visages, des personnes qui ne font pas partie de la structure et du système at large, qui ne font pas partie de la communauté at large d'une manière ou d'une autre, et qui ajoutent de la diversité à notre comité consultatif at large. Les 16 membres du comité, les 15 membres, pardon, du comité, on a plus de 50 membres en tout, hein, qui siègent à la LAC, plus les leaders régionaux pour chacune de ces régions. Donc pour l'Afrique, pour l'Afralo, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, les RALO sont mélangés avec les régions pour former un nom. Donc pour l'Afrique, c'est Afralo. Pour l'Asie-Pacifique et les îles du Pacifique, c'est Apralo. Pour l'Europe, c'est Euralo, etc., etc. Donc chacune de ces régions a un président et une équipe de gestion, plus les 15 membres de la LAC qui sélectionnent un membre du conseil d'administration. Donc 15 membres du conseil d'administration. Je crois qu'il y a 3 ans que cette personne a été nommée. À l'heure actuelle, c'est Sébastien Bachelet. Vous en aurez certainement entendu parler. Vous peut-être l'aurez revu. Ah non, il vient mardi. Donc vous allez le voir mardi. Il est sélectionné par notre comité. Il ne peut pas représenter la communauté at large parce que les membres du conseil d'administration, une fois qu'ils sont sélectionnés par le conseil d'administration, doivent agir dans le meilleur intérêt de l'ICANN. Ils ne sont pas là pour transmettre les intérêts de leur communauté. Mais bien entendu, ils reflètent les mêmes points de vue que nous, parce qu'ils proviennent de notre communauté. Diapo suivante. Qu'est-ce qu'at large? Comme je l'ai dit avant, c'est une communauté d'utilisateurs Internet individuels. Il y a 160 structures at large dans un certain nombre d'applications. C'est un groupe, comme je l'ai dit, qui est constitué par des associations de clubs d'informatifs. Et que faisons-nous exactement? Nous pouvons faire des commentaires sur tout ce qui se produit à l'ICANN. En d'autres termes, c'est comme un voisin bruyant. Vous êtes en train de repeindre votre maison et votre voisin vient et vous dit « Non, je n'aime pas la couleur. Vous auriez dû utiliser cette couleur, ça irait mieux. » Donc ce qu'on fait, c'est donner des conseils à tout le monde, ici à l'ICANN, mais surtout aux membres du conseil d'administration. Et on fait des commentaires sur les processus, afin d'apporter les contributions des utilisateurs Internet individuels pour améliorer les processus au sein de l'ICANN. Peut-être que vous aurez entendu parler des PDP, processus de développement des politiques, demain matin. Il s'agit donc des PDP, processus de développement des politiques. C'est la manière dont les politiques sont élaborées dans les organisations de soutien générique, code pays. Et on travaille de deux manières. D'abord, pendant les périodes de commentaires publics, en avez-vous parlé ? Non, pas encore. Alors, commençons. La période de commentaires publics, c'est lorsque la politique a lieu. La communauté reçoit des questions. Est-ce qu'elle est d'accord ou pas avec le développement politique qui a lieu ? En règle générale, après la rédaction d'un rapport par un groupe de travail, il y a une période de 21 jours... une période initiale pour les commentaires publics de 21 jours, puis une période qui suit de 21 jours de réponse, donc en tout 42 jours, pour que les gens puissent voir les commentaires qui ont été présentés jusqu'à présent et y répondre. Donc ça passe par un forum public en ligne. Tout le monde peut le voir, c'est quelque chose de très transparent. Et la structure at-large se penche sur les consultations publiques et on fait des commentaires là-dessus. Comment le faisons-nous ? J'y viendrai dans un instant, mais il faut essayer d'avoir un consensus pour apporter nos contributions sur ces commentaires publics. Voilà ce qu'on fait. C'est l'essentiel de notre travail politique. Et on peut faire des commentaires sur tout ce qui se produit à l'ICANN ou tout ce qui est lié à l'ICANN de près ou de loin. Et on peut le faire à tout moment. Donc on n'est pas limité à faire des commentaires pendant la période de commentaires. On peut le faire avant ou après. Si on n'a pas suffisamment de temps pour parvenir à un consensus dans notre communauté, on prend un peu plus de jours, un peu plus de semaines pour le faire ensuite. Ce qu'on peut faire également, c'est faire des commentaires sur les processus externes. Par exemple, lorsque il y a eu une rénovation du contrat avec l'IANA, c'était le contrat qui liait l'ICANN et le gouvernement nord-américain. Notre comité a fait des commentaires sur les questions qui nous ont été posées par le département du commerce des États-Unis. Nous prenons part également au groupe de travail intercommunautaire.
Groups.
Est-ce que vous en avez parlé de ces groupes de travail intercommunautaires ? Alors, on va en parler peut-être si vous avez le temps. C'est bon ? Alors, les groupes de travail intercommunautaires, en fait, ça correspond à la chose suivante. Lorsqu'il y a un sujet qui a un impact sur toute la communauté, donc c'est un petit peu une zone grise pour l'instant, parce qu'il n'y a pas réellement de manière définie de créer un groupe de travail intercommunautaire. Et donc la façon dont ça se produit, c'est que en principe, il y a deux communautés, deux membres, deux volets d'ICANN, donc souvent l'organisation de soutien et ALAC, par exemple, se disent « Ah, voilà un sujet qui va avoir un impact sur nos deux communautés. Donc nous allons travailler ensemble pour définir une charte qui permette de créer un groupe de travail intercommunautaire » pour pouvoir collaborer là-dessus. Parce qu'un des problèmes que nous avons à ICANN, et vous avez peut-être vu ça dans le premier diagramme que je vous ai montré, c'est que vous avez ces différentes organisations de soutien et les comités consultatifs qui travaillent dans leur propre domaine, donc de manière séparée, divisée. Et dans la salle d'à côté, il est tout à fait qu'ils travaillent sur la même chose en ayant des conclusions différentes. Donc, ce qui est important, c'est justement de collaborer avant pour pouvoir collaborer ensemble. Il n'y a pas énormément de groupes de travail intercommunautaires qui ont été créés. Certains ont réussi, d'autres pas du tout. La plupart du temps, la raison, c'est que la perspective, le but du groupe, les résultats en fait que chacun souhaite obtenir sont différents. Donc il est difficile d'atteindre un consensus lorsqu'on souhaite avoir des résultats différents. Mais ces groupes de travail intercommunautaires, en fait, c'est une des manières qui permettent à la communauté ICANN de collaborer. Avant, de manière précoce avant que le sujet arrive au conseil d'administration. Alors, ce qui est un petit peu intéressant par rapport à l'évolution la plus récente, c'est que l'organisation de soutien aux non-génériques, le GNSO, a son propre groupe de travail. D'ailleurs, il y a des PDP qui se produisent justement dans ces groupes de travail pour ce qui est du GNSO, et très souvent, ils invitent des personnes qui viennent des autres communautés ICANN à participer à leur processus de développement de politique. Donc, At Large envoie ses représentants, et je dis At Large, je ne dis pas ALAC, d'accord? Parce que ALAC, c'est le comité de 15 membres. Donc, il y a des membres d'At Large qui ont été envoyés dans les groupes de travail du GNSO pour justement pouvoir apporter une opinion. Une opinion. Est-ce qu'on est prêts, les interprètes, là? Il va à toute vitesse. C'est parti! Oui. Ça fume derrière. Donc, autre chose que nous faisons, et c'est là où je voulais en venir, le message ICANN, parce que c'est un processus qui va dans les deux sens, donc le message est envoyé dans la communauté. Si vous allez dans vos pays, et dans mon pays, ou dans mes pays plutôt, parce que j'habite à la fois au Royaume-Uni et en France, donc si je vais dans l'industrie et que je dis est-ce que vous connaissez l'ICANN, la majorité des gens vont dire non, je ne sais pas ce que c'est qu'ICANN. Et pourtant, ICANN est extrêmement important parce que ICANN coordonne les listes d'identifiants d'Internet. Donc, si ICANN n'était pas là, l'Internet ne fonctionnerait certainement pas. En tout cas, pas aussi bien que ce que nous avons aujourd'hui. Donc, de toute évidence, nous exprimons le message d'ICANN. Nous essayons d'atteindre la communauté et on essaye de les convaincre de s'intégrer au processus, de s'impliquer dans les processus de politique parce que cela a un impact sur eux. Donc ça, c'est un message important. C'est quelque chose que les structures At Large font au point de vue local. Et donc c'est très important parce que nous avons réellement une présence locale. D'ailleurs, l'empreinte de l'At Large est présente partout dans le monde. Une des missions que nous avons reçues, c'est donc de définir nos objections par rapport aux nouveaux GTLD qui sont en train d'être créés. Et donc ça, c'est la première fois, cela représente la première fois où At Large a reçu une tâche en fait opérationnelle. Donc nous avons collecté nos propres processus, nous avons considéré les différentes applications qui existent et nous avons pu soumettre nos objections. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, je peux vous le dire d'ailleurs parce que le processus est conclu, pour nous, point health, donc point santé, nous avions une objection par rapport à ça. Je crois qu'il y avait 4 différents domaines pour lesquels nous avions des objections. Bon, le système est complexe, donc je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Donc, pour des raisons que je ne vais pas vous décrire, il y avait donc 4 noms qui nous posaient problème. Et donc, au bout du compte, les demandeurs ont découvert qu'il y avait une lacune, un écart entre notre soumission, nos objections. En fait, le problème était médical, parce que point health, point santé, c'est quelque chose qui prête à confusion. Je rentre un peu trop dans les détails, Janice, non? C'est pas ça? Bon, enfin bref. Donc, nous avons réussi. Et donc, nous pouvons maintenant continuer par la suite à soumettre nos objections par rapport à ce qui est important pour nous sur la base de l'intérêt public. Et puis également pour ce qui est des demandeurs de la communauté. Donc voilà un petit peu ce que nous faisons. Maintenant, passons à la diapositive suivante. Alors voilà notre structure, je vous l'ai déjà mentionné. Vous avez l'At Large en bas, toutes les structures. Ensuite, vous avez les organisations régionales qui remontent vers ALAC. Et à droite, vous avez cette flèche donc de manière ascendante. Alors, c'est pas pareil que QSEC, d'accord? Parce qu'en fait, bottom-up en anglais veut dire deux choses. QSEC, donc vous buvez d'un coup, et là, c'est simplement ascendant. Donc là, c'est un processus de développement de politique ascendant. Donc, ce sont vraiment les personnes qui sont responsables des structures At Large qui nous disent ce qu'il faut faire. Tout nous vient d'eux. C'est eux qui nous disent quel est le consensus au niveau régional. Et ensuite, ceci arrive à ALAC. Et dans toutes ces structures At Large, n'importe laquelle, en fait, peut suggérer une question qui sera, en fin de compte, discutée au niveau d'ALAC. Et puis, bien sûr, ceci remontera en fin de processus. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, admettons que la structure at large a un commentaire à faire. Le commentaire est discuté avec l'organisation régionale at large. Et je sais bien qu'au fond de la salle, c'est un petit peu difficile à lire, pardon. Mais bon, je vais passer rapidement, c'est un petit peu compliqué. S'il y a un consensus au niveau régional, au niveau de l'organisation at large régionale, à ce moment-là, l'organisation régionale vérifie avec les autres organisations régionales at large dans le monde. S'il y a consensus, à ce moment-là, l'organisation régionale at large parle au comité at large. Ensuite, il y a discussion parmi les 15 membres d'ALAC. Et encore une fois, si nous avons un consensus, si nous sommes d'accord sur le fait que oui, il y a un problème, la première chose que l'on fait, c'est que nous publions une déclaration. Alors, comment est-ce qu'on publie une déclaration? Vous trouvez quelqu'un qui va être le porte-parole. Donc, parfois, vous pouvez avoir une personne ou alors trois personnes. Donc, un groupe de personnes qui va, en fait, rédiger la première version de notre déclaration. Lorsque cette première déclaration est prête, nous la mettons sur le wiki page, sur la page wiki. Et ensuite, on demande des commentaires de la communauté. Parfois, il y a beaucoup de commentaires qui sont envoyés, parfois très peu. Tous les commentaires sont pris en compte et ils sont ajoutés à la déclaration. Donc, la version suivante de la déclaration est amendée et nous avons une déclaration un petit peu plus finalisée. Il est tout à fait possible que ceci prenne deux, trois versions lorsque les problèmes sont vraiment prêts à confusion ou sont difficiles. Et à la fin, nous avons une déclaration qui n'est pas encore envoyée. Elle doit être en fait ratifiée par un vote des 15 membres du comité at large. Donc, nous avons une manière de voter en ligne. Et donc, chaque membre reçoit en fait une petite note nous utilisons un logiciel qui nous permet donc par le biais d'un petit message de voter. Alors, on demande, est-ce que vous êtes d'accord pour envoyer cette déclaration soit pour commentaire public, soit directement au conseil d'administration? Ensuite, si le vote est positif, si le vote est positif, eh bien, on continue. Sinon, c'est terminé et la déclaration, en fait, est envoyée à la poubelle. Alors, ensuite, donc, même système, vous avez donc le porte-parole qui donc prend en considération la demande de commentaires publics. Le porte-parole publie une première version. Si cette version est bonne, elle est amendée. Si elle réussit, eh bien, elle est votée. Donc, même chose, tout est basé sur le consensus avec vote pour ratifier. S'il n'y a pas ratification, à ce moment-là, la déclaration ne va pas plus loin. Alors, le problème de processus public, c'est que donc cela représente combien de jours? Au départ, c'est 21. 21 jours au départ, donc la première période initiale. Donc, il faut... En fait, vous avez donc soumission de demande de commentaires publics. Ceci se passe en 21 jours et c'est quelque chose qui se fait dans le monde entier, d'accord? Et le processus entre la première version, ensuite la révision et la deuxième version, parfois la troisième version, tout ce processus, donc cela veut dire pour moi que je cours partout. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, les gens d'Atlarge sont toujours en train de courir parce qu'il y a très peu de temps, en fait, pour rassembler les opinions de personnes qui sont partout dans le monde. Et en plus, n'oubliez pas que nous avons la question de la langue. Tout le monde ne parle pas l'anglais couramment. Nous travaillons avec l'espagnol et le français, donc tous nos appels téléphoniques sont interprétés. Et certaines de nos listes de messages utilisent une traduction automatique. Mais vous savez que tout ce qui est basé sur la traduction automatique n'est pas forcément adéquat. Donc, il y a un certain nombre de problèmes parce que pour les personnes qui ne parlent pas l'anglais, étant donné cette période limitée de 21 jours. Alors, je crois que Janice est en train de se rapprocher du micro. Ça veut dire qu'elle va m'éjecter. Alors, je suis arrivée à ma dernière diapositive, heureusement. Donc, pour ce qui est des liens importants, si le travail d'At Large vous intéresse, eh bien, vous avez des liens qui vous pouvez consulter. Donc, la correspondance correspond à toutes les déclarations qui ont été publiées par At Large. Je crois que l'année dernière, nous en avons eu, je ne sais plus, 50. Enfin, en tout cas, c'est plus d'un par semaine. Donc, c'est déjà pas mal. Ensuite, développement de politique at large. Donc, c'est là que nos déclarations sont créées. Donc, vous pouvez, en fait, cela correspond à la page web, à la page wiki, où nos déclarations sont constituées. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu les différentes étapes de ces créations de versions. Et ensuite, les groupes de travail. Parce que ICANN fait énormément de choses. Nous avons, en fait, divisé nos comités pour donc créer des groupes de travail. Et donc, certaines des personnes qui font partie de notre communauté se sont impliquées dans un seul groupe de travail. D'ailleurs, vous pouvez le faire. Ces groupes de travail ne sont pas limités aux personnes qui représentent l'at-large. Donc, c'est ouvert. Vous pouvez venir. D'ailleurs, il y a d'autres personnes de la communauté ICANN qui travaillent dans ces groupes de travail et ils sont indiqués sur cette page web. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà la diapositive suivante. Merci beaucoup. Donc, si vous cliquez encore une fois sur le bouton, il devrait y avoir un petit truc en haut. Voilà, très bien, ça marche. Donc, merci beaucoup. Je suis tout à fait prêt à répondre à vos questions. Janice au micro, merci. Olivier, je crois que nous avons un autre intervenant qui doit parler et ensuite aller à la réception, à la cérémonie d'ouverture, pardon. J'imagine qu'il y a sans doute des questions pour Olivier, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre par email et je vous les ferai passer. Je sais qu'il y a beaucoup de participants, donc j'ai quelque chose à vous dire, à vous donner ici et je peux vous m'en procurer d'autres. Il y a aussi un petit guide très en couleur, très joli, avec des informations supplémentaires si vous souhaitez le prendre. Merci, dit Olivier. Olivier de Janice, nous avons plusieurs anciens d'at-large qui sont tout à fait prêts également à répondre aux questions. Je suis désolée, dit Olivier, je dois partir parce que j'ai une autre réunion, mais n'hésitez pas à m'arrêter pendant la semaine si vous avez des questions. Et puis vous pouvez courir avec moi et je répondrai à votre question en courant. Voilà. Merci, dit Janice. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez ? Vous lever pour parler, ou parler debout ? Et donc, on va parler du modèle pluripartite. Bonjour, je m'appelle Alissa Cooper. Je suis présidente de l'unité constitutive des entreprises. C'est donc, en fait, un des groupes au sein du GNSO qui représente deux choses. Déjà, les registres et les bureaux d'enregistrement. Et ensuite, les autres parties non contractuelles. Donc, c'est l'unité constitutive, elle se trouve dans cette partie. Donc, cette chambre est divisée en deux choses. Il y a le groupe des unités constitutives commerciaux et ensuite le groupe des parties prenantes non commerciaux, commerciales. Et à l'intérieur de ceci, nous avons le groupe pour la propriété intellectuelle et ensuite pour les ISP, donc les fournisseurs d'Internet, de services Internet. Et donc ici, en vert, vous avez les parties contractuelles. En fait, ce sont les deux groupes qui ont un contrat, une relation directe avec ICANN. Oui, merci de m'aider là. Donc ensuite, vous avez donc la propriété intellectuelle. Vous avez les ISP, c'est-à-dire les fournisseurs de services Internet. Et ensuite, vous voyez en dessous qu'il y a les entreprises. Mais ensuite, donc, on divise et vous avez les parties prenantes non commerciales. Voilà, donc beaucoup de mots. Maintenant, je vais vous expliquer à quoi correspond cette unité constitutive des entreprises. Alors, cette unité constitutive des entreprises, encore une fois, fait partie du GNSO, donc qui s'occupe du développement des politiques d'ICANN. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est le développement des politiques avec trois choses, trois tâches spécifiques. Nous souhaitons développer des politiques pour que l'utilisateur ait confiance en l'Internet, en sa sécurité. Nous élaborons des politiques qui s'assurent qu'il y ait suffisamment de bureaux d'enregistrement et de registres. Et nous souhaitons également élaborer des politiques qui s'assurent ou qui assurent la sécurité, la stabilité et la fiabilité de l'Internet. Donc, en fait, nous souhaitons développer des politiques qui rendent l'Internet sécuritaire. Donc, si vous représentez une entreprise, peut-être êtes-vous même la seule personne dans cette entreprise, ou si vous faites partie d'une entreprise qui emploie, je ne sais pas, des centaines, des milliers de personnes, quelle que soit votre entreprise, vous avez votre place dans cette unité constitutive des entreprises. Nous avons des entreprises de tout type. Nous avons de toutes petites entreprises avec une ou deux personnes. Par contre, l'Internet est très important dans le cadre de leur travail. Nous avons d'autres entreprises qui ont des milliers d'employés. Cette unité constitutive est vraiment un lieu pour toute entreprise qui se préoccupe de la communication des informations dans l'Internet. Donc, nous travaillons ensemble au sein de cette unité. Nous nous réunissons environ deux fois par mois. Et bien sûr, lorsque nous venons aux réunions ICANN, nous avons une journée entière de réunion le mardi. En fait, c'est notre journée. Et donc, toutes les deux semaines, ce que nous faisons, c'est que nous cherchons à identifier les politiques qui sont en train d'être élaborées et quels sont les rapports qui sont en train d'être publiés. Donc, comme vous l'avez déjà entendu, il y a constamment un flux de commentaires, de rapports qui sont en fait publiés sur le site ICANN. Donc, nous surveillons constamment ce qui se fait, ce qui se publie, ce dont on discute, le type de politiques qui sont en cours, quelles sont les politiques, les questions traitées par les différents groupes de travail et ce qui est publié sur le site ICANN. Et lorsque nous apprenons telle ou telle chose, telle ou telle évolution, eh bien, nous posons la question suivante. Avons-nous besoin de faire un commentaire en tant qu'unité constitutive? Donc, c'est ça, en fait. Faire partie de cette unité constitutive, cela veut dire que vous travaillez avec un groupe très large de personnes. Il y a des personnes qui sont complètement nouvelles dans notre unité, donc qui sont en train d'un petit peu d'apprendre, qui posent énormément de questions. Et il y a d'autres personnes qui sont avec nous depuis très longtemps. Donc, nous répartissons le travail, l'analyse que nous faisons, afin de pouvoir publier beaucoup plus que si nous ne répartissions pas le travail. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire partie d'une unité constitutive pour faire des commentaires sur ce qui est publié par ICANN. En tant que personne, ou en tant que représentant d'une société, ou d'une organisation, d'une université, etc., vous pouvez répondre à n'importe quel commentaire publié par ICANN. Par contre, si vous faites partie d'une unité constitutive, vous pouvez travailler, collaborer, analyser et donc réfléchir et apporter vos idées de manière beaucoup plus efficace. En ce qui me concerne, je ne pourrais pas faire tout ce travail toute seule. Donc, c'est l'intérêt de faire partie d'une unité constitutive. Pour ce qui est de mon arrivée chez ICANN, donc pour vous expliquer un petit peu, il y a environ 10 ans, j'ai commencé à m'intéresser à ICANN et je ne me suis pas lancée immédiatement, je ne me suis pas impliquée immédiatement dans une unité constitutive, mais j'ai simplement commencé à surveiller le site web et à essayer de voir le type de politique qui était élaborée, le type de choses dont on discutait. À l'époque, j'imagine que c'était le « who is », donc les informations relatives au domaine, c'est toujours un thème très intéressant. Et je pense que c'est ce qui m'a intéressée au départ. Je voulais savoir un petit peu ce qui se passait.
Donc, je voulais lire les commentaires, les rapports, lire tout ce qui était publié par ICANN. Et j'ai commencé à participer de cette manière en suivant ce qu'il y avait sur le site web. Mais ensuite, après un certain nombre d'années, j'ai décidé qu'il fallait que je participe davantage, que je m'implique davantage en faisant partie d'une unité constitutive. Et pour moi, l'unité constitutive commerciale était en toute logique celle à laquelle je voulais participer. Donc, il y a 5 ans, j'ai commencé à participer à cette unité constitutive commerciale en tant que membre. Puis j'ai été présidente de l'unité constitutive commerciale depuis ces 2 dernières années. Mais ce n'est pas parce que je suis présidente que l'ICANN, pour moi, n'est pas un lieu confus. Parfois, je suis encore perplexe. ou confuse. Donc je vous encourage, à mesure que vous parlez aux gens, que vous rencontrez les gens dans cette réunion, à leur parler, à échanger avec eux. Ça fait des années que je travaille ici, mais ça, je suis encore persuadée que je continue d'apprendre. Je ne connais pas toutes les choses, donc c'est un espace très complexe, un environnement très complexe. Mais n'ayez pas peur de poser des questions. Si vous sentez que on vous fait sentir que vous posez une question stupide ou pas du tout à propos, eh bien, c'est leur faute. C'est la faute de ces personnes-là qui vous font sentir de cette manière, parce que aucune question n'est idiote. Donc, si une personne s'exprime trop rapidement ou n'explique pas son point de vue, n'hésitez pas à poser des questions. Comment fonctionne ce processus? Que voulez-vous dire par là? Vous pouvez faire comme j'ai fait, ne pas poser beaucoup de questions. J'ai peut-être attendu 6-7 ans pour comprendre bien les choses, mais il vaudrait mieux que vous posiez les questions maintenant, plutôt que d'attendre. Et demander aux personnes qui savent de partager leur expérience avec vous. Donc j'essaie, moi, dans la mesure du possible, d'expliquer les acronymes que j'utilise et de ne pas utiliser trop d'acronymes, mais parfois je le fais. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Que voulez-vous dire par là? Que signifie cet acronyme? Que fait ce groupe de travail? Qu'est-ce que le GNSO? Qu'est-ce que les CCNSO? Parce que les gens ont tendance à utiliser ces acronymes, parfois à faire des phrases avec des acronymes uniquement. Et je peux vous assurer que la plupart des gens ont des questions à poser et ne connaissent pas tous ces acronymes. Donc n'hésitez pas à les poser. Donc si vous êtes intéressé, si vous travaillez dans une société, si vous avez un intérêt commercial, n'hésitez pas à me rejoindre mardi lorsque notre unité constitutive commerciale se réunit lors d'une réunion ouverte après le déjeuner. Également une réunion à 9h45. Et lors de cette réunion, nous allons pouvoir parler au conseil d'administration. Vous pouvez y participer également. Mais je crois que notre réunion de l'unité constitutive commerciale, qui va se réunir après le déjeuner, va être très intéressante. Et j'espère que vous pourrez y participer. Ça sera un grand plaisir pour nous. Enfin, je voulais vous poser la question. Quelles sont vos questions sur les unités constitutives commerciales? Quel est le rôle d'ICANN? Quel est le rôle que l'on joue à l'ICANN? Toutes les questions que vous voulez me poser, n'hésitez pas à le faire maintenant. Janice, au micro. Nous sommes un peu pressés par le temps, mais ce qui est très intéressant sur le travail que tu fais, c'est que tu expliques les raisons pour lesquelles tu es venu travailler à l'ICANN. Beaucoup de nos membres viennent partager cette expérience parce que, tout d'abord, les gens se disent « j'ai un peu peur parce que d'accord, je veux participer, mais les autres travaillent là depuis des années, donc je vais être perdue ». Et c'est très intéressant ce que tu as dit. D'abord, lire le site web et comprendre bien les tenants et les aboutissants des travaux de l'ICANN. Et comme je vous l'ai dit hier, si vous commencez à parler avec des gens qui vont à l'université ou les gens qui travaillent avec vous, vos collègues ou l'organisation régionale, commencez à lire des articles, participez avec des commentaires, mais surtout lisez, parce que c'est une manière de participer. Et vous êtes en train d'apprendre et c'est vraiment une étape importante et intéressante. Et lorsque vous commencez à participer, sachez que vous n'êtes pas enfermé dans ce groupe et que vous ne pourrez plus en sortir. Parce que en tant que membre d'une unité constitutive, vous pouvez penser que vous n'avez rien à voir avec une unité constitutive commerciale. Eh bien, sachez que nous allons vous orienter, vous soutenir et partager notre expérience et des informations sur l'ICANN. Et une personne en Argentine a commencé à participer à l'unité constitutive commerciale de cette manière, parce qu'elle voulait commencer à participer, on l'a orientée, elle s'est rendue aux réunions. Et comme je l'ai dit hier, si vous entendez quelqu'un parler au micro et que vous ne comprenez pas bien, eh bien sachez que lors de la pause, dites-lui, écoutez, vous avez l'air de savoir de quoi il retourne ici. Est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Et il y a un stand de l'ICANN, vous pouvez trouver une brochure sur les acronymes, il y a un code barre, vous le lisez avec votre portable, et dès qu'il y a un acronyme qui est prononcé dans la salle, sachez que vous pourrez en obtenir la signification. Et c'est important que toutes les personnes des unités constitutives peuvent vous aider à mieux comprendre l'ICANN. Parce que les gens que vous rencontrerez dans ces unités constitutives vont pouvoir vous aider dans ce processus d'apprentissage. Oui, une question. Bonjour, Mario, au micro. Je voulais vous poser une question pour mieux comprendre. Pourriez-vous mentionner quelques projets que vous avez fait dans les, que vous avez menés jusqu'à présent dans les unités constitutives commerciales? Et pour réviser un processus ou un processus de développement politique, pourriez-vous décrire un peu cela? Excellente question. La première partie de votre question, quelles sont les choses sur lesquelles nous avons travaillé avec les nouveaux programmes du GTLD? Ça a été une grande partie de notre travail pour les unités constitutives commerciales. À mesure que tout ce programme a été développé, et ça a pris un peu plus de 4 ans, me semble-t-il, à chaque fois que ce qu'on appelle le guide d'orientation, c'est-à-dire les règles et conditions requises, on a fait une révision, on a soumis nos commentaires, on a fait des recommandations et on s'est concentré sur l'amélioration de la, des droits pour les mécanismes de protection des droits. Donc, nous assurer que les marques et les sociétés puissent se protéger par rapport au cybersquattage. Donc, on s'est également concentré énormément sur WHOIS, qui concerne les informations relatives au nom de domaine. On s'est concentré énormément sur la manière dont ces informations devraient apparaître, si elles devraient être accessibles, si elles devraient être formatées de la même manière que les autres. Donc, lorsqu'un rapport est rédigé sur ces questions, nous soumettons nos commentaires. Parce que ce qui se produit, c'est que une fois qu'un rapport est publié, nous soumettons des commentaires. Ces commentaires sont révisés tous ensemble. Et il y a une analyse qui est faite sur ces commentaires. Et en fonction de ce que disent ces commentaires, s'il s'agit d'un projet de rapport, il peut y avoir un autre rapport ou un rapport final qui inclut ces suggestions. Et donc, il y a une modification ou un changement dans la politique qui est élaborée. Vous m'avez posé la question de savoir combien de temps cela prend pour répondre à un rapport. Comme cela a été dit, il y a une période de réponse. Donc, une fois qu'il y a une période de commentaire, vous êtes censé y répondre dans une période de 21 jours. Très souvent, nous n'y répondons pas pendant la période initiale de commentaire et on ne peut le faire qu'après cette période initiale. Et lors de la deuxième réponse, période de réponse. Donc, très souvent, on ne peut pas soumettre nos commentaires pendant la période initiale, mais on le fait pendant la deuxième période de 21 jours. Mais vous pouvez également poser la question de savoir combien de temps vous consacrez en tant que membre de la commune, de l'unité constitutive commerciale. La plupart des membres consacrent leur temps à lire les communications qui sont envoyées par mail. Et ils sont là pour réunir des informations, comprendre ce qui est en train de se produire. Beaucoup de nos membres sont très actifs à cet égard et sont les premiers à se porter volontaires lorsqu'il y a un commentaire que l'on est en train de préparer. Nous n'avons pas un processus de travail très formel en disant un tel écrit les commentaires. Ça dépend de celui qui a du temps, celui qui se porte volontaire. qui dit, voilà, je suis disponible en ce moment, je peux lire les commentaires, je peux rédiger tel ou tel commentaire. Et une fois qu'il y a consensus, nous soumettons ce commentaire. Donc, par rapport au temps que l'on consacre, ça varie beaucoup en fonction des uns et des autres. Ça varie beaucoup du temps disponible par les uns et les autres. Merci. Outre cela, ce processus de révision, avez-vous également ce qu'on appelle la nouvelle initiative? Pouvez-vous être novateur par rapport au GNSS? Oui, effectivement. La manière dont nous participons dans le conseil du GNSO, c'est que nous avons deux membres du conseil qui siègent au conseil, l'un Gabby Slack et John Barad. Donc, au conseil politique, il y a deux représentants des unités constitutives commerciales et deux représentants des autres unités constitutives. Donc, si au conseil nous voulons proposer quelque chose de novateur, c'est là qu'il faut le faire. C'est une excellente question que vous venez de poser là. Bonjour, merci de cette présentation. Question dans la salle. Je m'appelle Benjamin Kaneja du Nigeria. J'ai deux questions. D'abord, lorsque vous voulez apprendre, devez-vous vous concentrer sur le domaine qui vous intéresse le plus? Parce que si on regarde ce qui se passe à l'ICANN, il faut bien commencer quelque part. Et c'est un petit peu confus parce que j'ai beaucoup écouté les intervenants, mais il y a tellement de choses que tout peut vous intéresser. Donc, ma question est la suivante. Comment avez-vous choisi le domaine qui vous intéressait le plus lorsque vous avez décidé de participer, lorsque vous entendez tant de choses? Comment décider ce qui vous intéresse le plus et participer? Première question. Deuxième question. En termes commerciaux, moi, je viens d'un environnement commercial et il y a beaucoup de discussions sur, non pas l'Internet en soi, mais sur la mobilité des informations. Donc, la plupart des gens ne participent pas actuellement parce qu'ils se contentent de développer des choses. Donc, quels sont les mécanismes que les unités constitutives commerciales mettent en place pour répondre aux intérêts de ces groupes? Je ne sais pas si j'ai été claire dans ma question. Alors, je vais répondre d'abord à la deuxième question. Nous avons un certain nombre de membres des pays en développement et nous avons différentes organisations qui proviennent ou qui appartiennent aux unités constitutives commerciales et qui tentent de mettre en place des campagnes de sensibilisation dans ces pays. Et nous sommes très intéressés par le fait de garantir une représentation dans le monde entier. Et dans le fait de nous développer, non pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. C'est très important pour nous. Il faut que nous le fassions, non seulement pour notre propre crédibilité, mais aussi parce que, de mon point de vue, peut-être que beaucoup de gens n'auront pas d'ordinateur, mais auront des outils ou des gadgets mobiles. C'est vraiment quelque chose qui va utiliser de plus en plus d'espace. Donc, ce que nous recherchons, ce sont des membres du monde entier. Mais j'ai oublié votre première question. Oui, ça y est, ça me revient. Oui, c'est ce que j'ai fait. Le site web a un peu changé au cours du temps. Mais ce que je vous recommande, c'est de lire la section sur les commentaires pour voir ce qui est soumis actuellement à commentaires et voir comment vous pouvez participer à l'ICANN. Je crois que moi, ce qui m'intéressait à l'époque, c'était les informations sur les noms de domaine. Je voulais absolument comprendre le rôle de l'ICANN dans le fait de garantir la disponibilité des informations relatives aux noms de domaine, quelles étaient les restrictions, quel était le format, comment ces informations pouvaient-elles être disponibles, comment les bureaux d'enregistrement pouvaient les rendre disponibles, ces informations. Donc ça, c'est ce qui m'intéressait. Je regardais ce qui concernait tout cela sur les commentaires publics. Voilà un petit peu le domaine qui, moi, m'intéressait. Mais même si vous vous inscrivez, vous voulez vous inscrire sur MyICANN et recevoir une liste de toutes les questions en cours, sachez que vous pouvez le faire. Mais ce qui est important ici, c'est d'identifier le domaine qui vous intéresse le plus. Et c'est certainement un bon endroit pour commencer. Mais sachez que les choses ne bougent pas aussi vite à l'ICANN. Une fois que vous avez identifié une question qui vous intéresse, vous pouvez passer à une autre question et faire le lien avec une autre. Les choses ne changent pas si vite à l'ICANN. Parfois, cela prend 9 mois, 1 an avant que les choses évoluent. Donc, vous pouvez identifier une question, puis passer à une autre, etc. Janice, au micro, oui, toutes les choses évoluent lentement. Alors, je sais que vous voulez aller à la cérémonie de bienvenue, donc je vais vous remercier. Si vous avez des questions à lui poser, envoyez-moi vos questions, je lui transmettrai. Merci beaucoup, comme toujours. Excellente information que vous venez de nous transmettre sur la manière de participer, d'être actif et de participer aux unités constitutives. Alors, j'aimerais dire 2 choses. Le vice-président pour l'Amérique du Nord et pour la participation des entreprises travaille avec vous sur la sensibilisation. Donc, je sais que vous êtes en train de vous concentrer sur ces questions dont vous venez de parler pour les pays en développement. Autre question, utilisateur individuel. Je sais qu'il y a, par exemple, pour quelqu'un comme Benjamin qui est du Nigeria, qui est un individuel, qui est une personne individuelle et qui vient du Nigeria, participer à une unité constitutive, il peut en être membre et être entendu. Donc c'est ça c'est très important parce que si vous êtes membre d'une unité constitutive, vous pouvez faire partie d'une société, qu'elle soit grande ou petite. C'est comme le CCNSO. On a tendance à penser que vous, en tant qu'individu qui travaille dans une société, vous ne pouvez pas y participer. C'est pas le cas. Vous pouvez le faire.
Bon, donc, il ne nous reste que quelques minutes. Je vous remercie. On va arrêter l'enregistrement et on va faire quelques petits commentaires plus intimes, entre guillemets. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.